Françoise Trossard et la belle équipe en piste pour un numéro spécial. Les papous passent la grègue. Au menu, joli dimanche, publi papoucité pour le Jurassic Park et un pamphlet contre la vie telle que la pub la rêve pour nous, Dominique Muller.
Voilà comme nous devrions vivre, pauvres mortels, de janvier à décembre, de notre premier à notre dernier jour. T'as vu, mamie, la super convention obsèque? Oh oui, papy, j'en meurs d'envie.
Ensuite, la dissertation des papous, philosophique et en quatre sujets, pour les candidats Comon et Beignet, sujet miné.
Dans une lettre, Jean-Paul Sartre pose cette question: quelle est ma place dans blablabla, et surtout, est-ce une place blablabla?
Viendra le temps de la chanson de Gabriel et du match expert contre faussaire avec un Hervé Le Tellier spécialiste, mais pas si sûr de lui.
S'il y a le mot chafouin qui apparaît, qui ouais. donne un truc, c'est Delbourg. Donc, il y a des choses comme ça qui facilitent énormément le travail de l'expert, mais on ne l'a pas tout le temps, le mot chafouin. Mais quand même, une fois sur deux.
Nous sommes ensemble jusqu'à 13h58 et ravis de l'être. Un numéro des papous à télécharger sur franceculture.fr pendant un an, à réécouter 1000 jours à la page des papous. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Merci de votre fidélité et bienvenue à ceux qui nous écoutent pour la première fois. Un certain samedi soir à Bordeaux, au théâtre de l'Athénée, une première pour la bande des papous, ce voyage à Bordeaux et un plaisir d'être accueilli dans cette ville superbe où il a l'air de faire bon vivre. Et nous étions invités par la Société des agrégés, une idée de sa présidente, sa jeune présidente, Blanche Lockmann, agrégée de lettres classiques, soutenue par les agrégés du bureau bordelais, Jean-Michel Léost, lettres classiques également, et les deux pôles, tous deux agrégés de mathématiques. Blanche Lockmann voulait fêter les 100 ans de la Société des agrégés avec les papous de France Culture et on n'était pas peu fiers. Des jeux pour un centenaire, des jeux avec nous qui sommes beaucoup plus jeunes, 30 ans les papous. Et avec moi, sur la scène de l'Athénée, Dominique Muller, Lucas Fournier, Patrick Beignet, notre agrégé de lettres modernes. Eva Almassi, Hervé Le Tellier, Patrice Comon, Patrice Delbourg, Patrice Minet. Il y a plus de Patrice au papou dans la tête que d'agrégé. Et Gabriel Godard pour nous accompagner en musique et en chanson. Dans la salle, Madame la députée Michèle Delaunay, un chaleureux mélange d'auditeurs, agrégés ou pas, étudiants ou non, bordelais ou venus d'ailleurs, tous le sourire aux lèvres. Une récréation littéraire à retrouver en deux dimanches et demi. Et oui, nous avons joué à nos jeux papous sur la scène de l'Athénée pendant près de 3 heures. Les papous passent la grègue, première partie. Et pour lancer ce numéro spécial des papous dans la tête, honneur au jour qui nous réunit sur France Culture, à savoir le dimanche, avec un pastiche qu'on appelle un joli dimanche. Et c'est Hervé Le Tellier qui ouvre avec le joli dimanche du petit Nicolas.
C'est dimanche. Et le dimanche, souvent, on va chez papy et chez mémé. Moi, j'aime bien parce qu'on prend la voiture, parce qu'ils habitent en banlieue. Et qu'on chante, sauf là, on ne chantait pas parce qu'il y avait plein de voitures sur la route et que papa a voulu prendre un autre chemin et qu'on s'est perdu et que le GPS disait « Waiting for signal ». Quand on est arrivé, papa nous a déposé devant et il est parti en disant « Bon, ben c'est toujours, hein, comme d'habitude, il n'y a pas de place ». Mémé a ouvert la porte et elle m'a fait un gros bisou parce que j'avais drôlement grandi et elle a dit « Maman, eh bien, et ton mari, où est-il ?»« Il est en train de chercher une place », a dit maman. « Enfin, c'est idiot », a dit mémé. « Il n'avait qu'à se garer devant la porte cochère. C'est la sortie de notre garage. Il n'y a que notre voiture et c'est dimanche. Les contractuels ne mettent jamais de PV. »« Ah bon ?» a dit maman, qui a appelé papa pour lui dire, mais il lui a dit qu'il était déjà garé, mais que bon, d'accord, il allait rechercher la voiture et il arrivait. « Viens faire un bisou, Nicolas », a redit mémé. « Ton papy arrive, il est allé chercher du pain. » Et puis, elle a commencé à parler avec maman en disant qu'en fait, ils jouent au tiercé, ah là là, jusqu'à ce que papy revienne et que papa sonne à la porte. « Je vous ai fait du gigot avec des flageolets », a dit mémé. « C'était ça, ou des flageolets avec du gigot », a fait papy, en souriant comme s'il était fatigué. Et papa a souri presque pareil, et maman lui a fait les gros yeux. « Qu'est-ce qu'on lui donne à sa mémé ?» a dit mamie. « Un bisou », a dit papa, et maman a refait les gros yeux. On a bien mangé, même si la viande était un peu trop cuite. Mais moi, j'aimais bien les flageolets blancs et aussi le gâteau au chocolat que fait mamie. Même que j'en ai pris deux fois du gâteau et que mamie m'a encore resservi une fois. « Josiane, elle va être malade », a dit papa. « C'est dimanche », a dit mamie, « ça peut pas lui faire de mal, ce sont que des bons produits. »« Qui veut de mon excellent café ?» C'est du lyophilisé. « Je sais bien que vous n'aimez pas ça », elle a dit à papa, « mais moi, hein, j'aime bien les cafés pas trop forts. » Comme c'est la mode maintenant, avec les machines qu'ils font, c'est vraiment trop fort. Alors mon gendre, je vous en sers un quand même. Et papa a dit, oui, bien sûr, Josiane, si vous insistez. Mais j'insiste, a dit mémé. Papy a dit que lui, il n'en prendrait pas cette fois. Merci. Et il est parti faire ses mots croisés. Il fait plein de mots croisés, papy. Bon, a dit papa, mais après le café, on ne va pas tarder, sinon on va être dans les encombrements. Quand on est sorti, mamie est sortie sur le pas de la porte et elle m'a dit, un bisou. Et elle nous a dit, « Ah, dans deux semaines, hein, sans faute. »« Oui, maman », a dit maman, pendant que papa retirait le petit papier bleu et blanc qu'il y avait plié en deux sous le pare-brise. On est rentré, papa ne disait trop rien, sans doute à cause des encombrements, et maman allait dire quelque chose, mais à ce moment-là, j'étais malade et j'ai vomi.
C'est l'heure de la pub, et oui, on y viendra, mais une pub culturelle et décalée, ou Publie Papou Cité. Elle a été écrite par Patrice Caumont, il a concocté des jolis petits rôles pour Dominique Muller, pour Hervé Le Tellier, et c'est Gabriel Godard qui est au chant et au piano. Alors c'est une pub pour un nouveau parc d'attractions, le parc Marguerite Duras.
Vous aimez les cubitus énormes de la galerie du muséum et les humérus gigantesques des dinosaures?
Vous aimerez Jurassic Park.
Vous aimez les monstres sacrés et les sacrés sacrums fossilisés?
Vous allez adorer Jurassic Park et ses brontosaures de légende.
Venez vite observer toute la faune du flore réanimée, nos sauriens empaillés et la star du parc, Marguerite, la Tyrannosaura Regina, fossile géant découvert près de Duras, Lot-et-Garonne.
C'est le plus grand des auteurs. Oui, mais c'est un dinosaure qui fascine ses lecteurs comme un boa constrictor. À la phrase, elle fait un sort. Faut tout déconstruire, dit-elle. Marguerite ou bouton d'or ne s'arrose pas au vitel. Telle une menthe cruelle, ses amants, elle les dévore dans de longs rapport textuel. C'est Mishima, ses amours, c'est une vraie tyrannosaure qui régnait tant à son heure qu'on nomme l'époque encore le Jurassique supérieur.
Jurassic Park, plus qu'un musée signifiant, c'est un mausolée du signifié pour ces pétrodactylos, ces ogres des constructeurs qui dévoraient les adverbes comme on broute de l'herbe.
Ah, Jurassic Park, on a reconstitué leur habitat naturel. Des grands prés de Saint-Germain aux marais d'Indochine. Vous n'y verrez pas des fossiles desséchés, mais des monstres plus vrais que nature, tant leur exceptionnel taux d'alcool dans le sang les a laissés dans un état de conservation stupéfiant.
À Jurassic Park, vous passerez des journées entières dans les arbres, jusqu'à 10h30 du soir en été, ou un simple après-midi avec Monsieur Andesmas, notre guide qui vous présentera nos grands sauriens saussuriens, le butorosaure, le pingératops, le Roland Barthérix de la famille des mégalostructurators.
Ou le foucosaure, un diplôme d'Octus Todorophipar datant du lacanien primaire. Ou la sarotosaure, ou le ricardoptérix.
Sans oublier le top du tricératops, le bécatéron, rare ankylosaure à plumes.
Vous pourrez effeuiller dans notre muséum shop l'album souvenir de votre visite, Marguerite au parc, et offrir à vos enfants notre mascotte, la Margarita mon amour, peluche archéologique à lunettes qui ravira petits et grands.
Profitez de nos tarifs de printemps. En avril, l'entrée du parc est plutôt moderato quant au billet.
Notre musée des vieux lézards étant basé sur le bénévolat des jeunes thésards, vous pouvez nous retrouver sur le site duras@iguanodon.com.
Ou envoyez directement vos dons à Équinodon, 14 000 Trouville, boîte postale Lolvestein.
Nous en serons ravis.
Et si vous vous demandez qui a le plus beau stylo chez les pétrodactylos, Duras, Duras, Duras. Métaphore et périphrase, elle fait pas dans la dentelle, il faut tout détruire, dit-elle. Duras, Duras, Duras. Elle écrit à grands coups de masse, au marteau, au marteau. Faut bien que ça passe ou que ça casse, moderato, moderato. Le style où les mots s'effacent, la musica d'India Song, où l'amant qu'est beau Mekong.
Duras, Duras, Duras.
Parfois un peu à la masse, elle confond Hiroshima, Nevers, Venise, Calcutta.
Duras, Duras, Duras.
On fait pas du Lévinas quand on adore la Vinas. Bien vite la voix se casse. Duras, Duras. Elle se fout du temps qui passe. C'est sans doute un dinosaure, mais qui pond des mots trésors.
Duras, Duras, Duras.
Duras, Duras, Duras. Duras, Duras, Duras.
Vous aimez râler? Oui? Ah ben si, nous on aime bien. Mais parfois on râle sous cap, on n'ose pas s'exprimer. Et pourtant on est irrité, on est agacé. Et il faudrait prendre exemple sur Dominique Müller qui ose écrire quand elle est furieuse.
Et le dire aussi, je suis une atrabilaire.
Et c'est sur quel sujet?
Eh bien, ce n'est pas vraiment contre la publicité, mais contre ce que j'appelle le radépacrétisme publicitaire. La pub, c'est le rat des pâquerettes, le niveau zéro dans la tête. À ces de minables pensées, ne nous laissons pas enfumer. Non, on vit comme des opérettes, vantant du tout tous les croquettes et l'éclat des produits WC pour nous rat des pâquerettiser. D'accord, les temps sont durs et il n'y a pas de petites économies. Surtout pas chez les riches, experts en lésine pour le peu que j'en connais, mais restons-en aux gens normaux, les vous et moi. La publicité permet de connaître et comparer le prix des choses. Bon, d'accord, mais un point, c'est tout. On s'en tient là, créatif au leitmotiv abusif, on s'arrête là. Stop! Qu'est-ce que c'est que cette prétention de se mettre à la place des vous et moi qu'on fait profession de gruger? Qu'est-ce que c'est que cette condescendance qui prétend les montrer au naturel dans leur tranche de vie, subjugués par vos aspirateurs, vos cols à dentier, vos lessives, en famille, au bureau, en bagnole, en vacances, partout? Que dis-je les montrer? Pénétrer dans leur cervelle et concocter les dialogues imbéciles qui sont censés les agiter du matin au soir? Scène banale, papa, maman et les gosses sont à table. De quoi parlent-ils ces aimables vous et moi? Ben des produits qu'ils ont sous le nez, voyons de quoi d'autre. Icos, céréales, pain emballé, boisson soluble, beurre allégé si c'est le matin. Barquettes, conserves, pâtes, sauces, desserts, etc. usinés le midi ou le soir. Avec quel enjouement ils conversent de leur cholestérol et de leur transit, d'oméga 3 et de fibres. Entendons-nous bien, je n'attends pas de cette famille qu'elle participe au banquet de Platon et papote morale, philosophie ou métaphysique, mais je m'insurge contre les sénètes de la vie minuscule que votre mépris lui prête, comme si la somme de ses QI et de ses émotions s'exprimait en cris d'extase devant un dentifrice ou un plat industriel. La pub, c'est le rat des pâquerettes, cogito ergo sum en miettes, plancher des vaches scénarisées pour nous rat des pâquerettiser. Sortis de chez eux, ces braves gens vont-ils enfin, entre collègues ou amis, décoller de leur routine et échanger, je ne sais pas moi, rêves, espoirs, passions et tout ce qui fait le sel de la vie? Non, à la pause déjeuner, le sexe féminin débat de couches pour bébé, de crème pour grosse, pour tif, pour tronche, à croire qu'elles ne le valent pas mieux. C'est qui le? Le Dasein publicitaire qui régit leur existence de gourdes, de patates, en promo, ouais, on y va. Base du plafond. Quoi, tu ne connais pas la peinture sèche-vite? Oh. Du côté viril, ça discute ferme. Un brin critique de la raison pure, un brin monte comme volonté et représentation. Kant et Schopenhauer, attention les yeux. Mon œil, raison pure, volonté, représentation s'appliquent à des bagnoles, des crédits, des après-rasages et des déodorants. Ne pue pas, tu seras un homme, mon fils. Et leurs enfants, ces pauvres enfants, tarde ta gueule à la récré si tu ne partages pas ton goûter machin ou ton spray anti-poux. Même les bébés jalousent leur couche à fronce et leur petit pot, dont dissertent les mères à l'heure qu'il est. Voilà comme nous devrions vivre, pauvres mortels, de janvier à décembre, de notre premier à notre dernier jour. T'as vu, mamie, la super convention obsèque? Oh. Oh oui, papy, j'en meurs d'envie. Beati paupere spiritu, car le royaume des publicieux leur appartient. Le rat des pâquerettismes guette, du rase motte l'exégète, refusons d'être ces benets qui ne volent pas plus haut que leur nez. Pubar, c'est Nietzsche qui le répète, plus haut qu'elle-même faux clavipète, Ubermensch au petit pied pigé, fini de rat des pâquerettisés.
On est assez d'accord, hein? Mais je crois qu'il y a un homme ici, à côté de moi, c'est Lucas Fournier, qui est contre ce que vient de dire Dominique Muller, je me trompe ?
Non, je ne suis pas contre. Moi, j'ai une approche purement professionnelle.
Oui.
Je sais que je ne suis pas le seul médecin dans la salle ce soir. Je me présente, docteur Kerglas remplace, Kerglas répare. Je suis psychopublicologue et je suis le médecin traitant de Madame Muller. Chère Madame, nous sommes en présence d'une pathologie typique de pubicétalgie nerveuse, compliquée d'un hypersyndrome mélancolique spotique sous-jacent avec diffusion purée mousseline et érythème psychopurulent tendance café grand-mère. Mais rassurez-vous, petite madame, on va d'abord s'occuper de soigner vos micro-coupures de publicité, et puis ensuite on passera à un traitement un peu plus rude, la Victor Hugo thérapie.
Victor Hugo ?
Oui, Victor Hugo. Je crois qu'il est inutile de rappeler que c'est le maître absolu de la publicité. Jacques Séguéla n'a-t-il pas dit « Je veux être Victor Hugo ou rien ?» Hugo, beaucoup l'ont oublié, a arraché les plus gros contrats. Depuis 1931, il a le budget de Notre-Dame de Paris. Budget colossal. La campagne sur la Madeleine, c'est lui. Oui. Vous pensiez Proust ? Eh ben non. Non, Marcel Proust, le misérable, a plagié le personnage de Jean Valjean, alias Monsieur Madeleine. Et puis Hugo, depuis qu'il a fait tourner les tables à Guernesey, a tout le budget Conforama. J'ajoute qu'on doit à Victor Hugo les plus beaux slogans publicitaires de la littérature. Madame Bovary, c'est moi. Oui, Flaubert a fait le livre. Mais la promo, le procès, les pubs, c'est Victor. Ou encore, Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. C'est encore lui. Notre-Dame de Paris, page 675. Peu de gens vont jusqu'à la page 675. Et pourtant, ou encore, E égale MC2. C'est Victor Hugo. Dans 93. Puisque E égale MC2, c'est la racine cubique de 93.
Bon, c'est bien joli tout ça, mais la Victor Hugo thérapie, ça consiste en quoi ?
Alors c'est simple, tous les soirs au coucher, vous allez prendre une dose de publicité de Victor Hugo, et ça va complètement changer votre regard sur les réclames. Alors je l'ai en suppositoire ou en alexandrin ?
Oh bah, je préfère l'alexandrin.
Parfait, donc le premier soir, vous allez lire 100 vers de la légende des pubs. Le deuxième soir, vous passez à 200 et ainsi de suite jusqu'à 1000. Et vous comprendrez la pub non plus comme une activité mineure, mais comme un art sublime, géant. Écoutez ça. Oh, combien de slogans, de réclames hautaines qui sont partis légers sur les ondes lointaines dans vos mornes cerveaux se sont évanouis. Combien ont disparu dans vos mémoires enfouies. Combien de chocs des mots et de poids des photos sont réduits aujourd'hui en simples ex-voto. Te souvient-il d'André Chasseur, sachant chausser. Du sempiternel, du bon, du beau.
Du bonnet.
Lorsqu'avec ses slogans trouvés par ses grosses têtes, échevelés, livides, fumant des cigarettes, Havas, à Publicis, descendant de l'Olympe.
Oh, oh, Victor Hugo, un verre ça va, deux verres, bonjour les dégâts. C'est un traitement lourd. Vous n'auriez pas quelque chose de plus homéopathique ?
Alors c'est la cyranothérapie. La tirade du nez, eh bien, vous la prenez. Vous pouvez convoquer les muses de Sicile, c'est léger, c'est joyeux et pas bien difficile. Les arts et le génie français en un seul slogan, les voici élégants et séants comme un gant. Car la pub, en trois mots, c'est nous dire son homme, on peut faire, madame, bien des choses en somme. En variant le ton, par exemple, tenez, proustien, mini Proust, mini prix, il écrit le
maximum.
À l'allemande, Goethe, das Autor. Shakespearien, Hamlet, la perfection au masculin. Oui, oui. Marxiste, le capital, parce que je le vaux bien. Artiste, Picasso, what else? Aérien, heureusement il y a Saint-Ex, Saint-Ex. Balzacien, Flaubert sait faire à mon café, Flaubert sait faire à mon café. Napoléonien, vous ne viendrez plus chez nous par hussard. En voulez-vous encore ?
Oui ! Ah.
Catholique, Peggy, le contrat de conscience. Olympique, Monterland, à fond la forme. Romantique, les plus exagérés sont les spots les plus beaux et j'en sais d'immortels qui sont de purs joyeux. Académicien, on a toujours besoin de Genevois chez soi. pictural. L'ami du petit chevalet, l'ami... Tintoret. Américain. Au père, il n'y en a pas.
Deux.
Ah. Ugolien, Victor, ça va fort. Bibette. Tout le monde se lève pour Colette, Colette. Épiscopale, enfin, et priante à genoux. Des pages, oui, mais de Charles Péguy. Et c'est là que la nôtre se fermera ce soir. J'espère, cher ami, sans jouer les guiteries, avoir soigné votre âme et vous avoir guéri. Madame, maintenant, just do it.
Je rappelle que aujourd'hui les papous passent la grègue. Donc, il y a deux papous parmi nous, Patrick Beignet et Patrice Caumont, qui vont s'essayer à la dissertation philosophique des papous dans la tête. Alors, elle est classique comme dissertation, mais elle a ceci de particulier, que chacun planchera sur un sujet qui repose sur une citation dont ne lui seront donnés que deux mots. À lui d'imaginer la situation en question et ensuite de traiter le sujet qui lui est imposé, ce qui est à la fois plus facile parce que l'imagination va faire son chemin et va les guider, et en même temps c'est très contraignant tout de même. Alors, Patrice Caumont, Patrick Beignet, on commence par qui pour les sujets ? Nous avons quatre examinateurs. Alors je sais que c'est pas du tout la coutume pour l'agrégation, mais ils auront le choix chacun entre deux sujets. Parce que c'est la dissertation des papous dans la tête. Alors, je crois qu'on va commencer, par exemple, par Patrice Caumont. Vous êtes prêt à écouter les sujets qui vous sont proposés ? Il faudra vous décider tout de suite.
Oui, madame. Hein ?
Alors, un premier sujet qui vous est offert par Eva Almassy.
Le voilà. Platon, dans son célèbre dialogue « Les parapluies d'Athènes », dit « La 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 » Escargot, la 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 la, dialectique, la 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 la. À la lumière de cette citation devenue proverbiale de l'histoire de l'éthique météorologique, des présocratiques jusqu'à Nietzsche et Heidegger, et des exemples de votre expérience personnelle, répondez à la question. Peut-on parler de mensonge lorsqu'on a promis un beau soleil et qu'il pleut toute la journée?
C'est un très bon sujet, un peu costaud, mais je suppose, on est au niveau bac, hein. Je suppose que Les parapluies d'Athènes est une œuvre qui est au programme, non, Patrice Caumont? Vous avez dû la lire. À demi au programme, oui. Quelle réflexion faites-vous sur ce sujet ? Intéressant ?
Intéressant.
Bon, on voit l'autre tout de suite.
Oui.
Il est proposé par Lucas Fournier. Essayez de mémoriser le précédent tout de même pour choisir.
Oui, donc c'est un sujet de bac, option hôtellerie-restauration, Académie de Bordeaux. Dans sa préface à la nouvelle édition de l'ouvrage de Vladimir Yankelevitch, Le je ne sais quoi et le presque rien, Michel Onfray écarte d'un revers de manche une question ontologique en écrivant nanana 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 apori, nanana 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 cheval blanc, nanana nanana. De votre côté, sous forme d'un dialogue philosophique imaginaire entre Montaigne et Montesquieu, vous tenterez de répondre à une autre question ontologique. L'entrecôte bordelaise se doit-elle être servie à point ou saignante ?
Vous avez pris l'option hôtellerie ou...
Donc je prends... En fait, les deux sujets sont exactement le même.
Ah ben, ils n'ont pas travaillé ensemble. Hein. Ils se connaissent,
c'est
évidemment.
C'est exactement le même sujet.
Oui, mais qui ne s'appuie pas sur les mêmes références.
L'escargot étant le symbole de la porie. Oui. Alors là, le cheval blanc est, est très tentant, mais j'ai déjà beaucoup... À Bordeaux, il y a plus de tonneaux que de Diogène. Donc,
donc, je vais la
prendre
météo,
l'escargot.
L'escargot et la météo.
Ah, l'escargot.
Très bien, très bien. Donc, Eva Almassy, confiez votre sujet à Patrice Caumont. Vous aurez tout à l'heure une quarantaine de minutes pour écrire votre dissertation, en même temps que Patrick Beignet, qui lui aussi a droit à deux sujets. Vous êtes prêt à les entendre, Patrick ?
Oui, oui.
Premier sujet proposé par Dominique Muller.
Alors, Eva a parlé de Socrate, et moi je me fonde sur un philosophe tout aussi important. Donc le sujet est « Dans Qu'est-ce que l'homme ?» Luc Ferry donc, écrit « Une cervela, phénoménologie. En rapportant cette affirmation à Hegel, vous définirez la relation entre le dialectique et la dialectique. »
Fastoche.
C'était au programme, je précise.
C'est vraiment niveau bac, ça ?
Oh, bon, oui, c'était au programme, je vous le dis. Hein. Oui,
bon, alors. Bon. C'est un très beau sujet, hein. Ça, on peut le dire. On n'aimerait peut-être pas le traiter. Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas sûre. Patrick, je ne sais pas. Qu'en pensez-vous ?
J'ai jamais su ce qu'était le cervelas. Ah. Ça va me bloquer.
C'est un handicap, certain. Alors, de toute façon, vous allez découvrir le deuxième sujet qui vous est proposé par Patrice Minet.
Voici mon sujet. Dans une lettre, Jean-Paul Sartre pose cette question. Quelle est ma place dans blablabla? Et surtout, est-ce une place blablabla? Sans négliger d'évoquer rapidement Blaise Pascal, essayez de répondre avec sincérité. En vous aidant de votre histoire personnelle et éventuellement de votre expérience des trajets si vous empruntez régulièrement les transports en commun. Vous imaginerez aussi les réponses éventuelles des membres de votre entourage en choisissant les plus pertinentes car, pour paraphraser le grand auteur africain Amadou Ampateba, quand le cœur des ânes donne de la voix, il est inutile de braire pour le couvrir.
C'est un sujet intéressant, oui. Hein? Alors, on peut hésiter entre les deux, évidemment.
Ah oui. Non, on n'hésite pas du tout.
Ah bon?
Je prends celui de Patrice Minet.
Ah, ben très bien. Mais
moi
il est
qui
pas...
suis une examinatrice tout à l'heure, je le prends très mal.
Ah oui, mais vous n'aurez pas à le corriger puisqu'il n'a pas choisi votre sujet, ma pauvre Dominique.
Alors que visiblement, Patrice Minet est un examinateur bavard. Et ce sont les meilleurs, évidemment. Il parle et il trouve que... Le candidat les écoute très bien, ça vaut des bonnes
notes. Donc vous pensez qu'il sera indulgent, voilà. C'est ça l'idée.
Alors, je ne serai pas indulgent, j'aime parler.
Ils vont travailler sous nos yeux pendant que nous on va papoter, lire des textes, jouer. Ils vont se mettre derrière aux tables de travail. Vous avez des casques pour vous isoler un petit peu du bruit ambiant, mais il n'y aura pas de musique dedans. Et vous devez vous concentrer tout de suite, vous y mettre tout de suite. Est-ce qu'il y a du papier ? Ah, ben j'ai bien
j'ai
fait poser la question.
Part, oui. J'ai déjà entendu ça.
Quelqu'un a du papier dans la salle. Oh, ben, il y avait une rame, mais elle était cachée, alors. C'est parti, vous écrivez, nous on joue. On va écouter une très jolie chanson de Charles Trenet par Gabriel Godard, parce qu'elle ne chante pas que dans les publics papoucités, Gabriel. Elle chante tout court et très joliment.
Un rien me fait chanter. Un rien me fait chanter. Un rien me fait danser. Un rien me fait trouver belle la vie. Un rien me fait plaisir, un rêve, un désir. Un rien me fait sourire. quand le ciel est joyeux, je me sens le cœur heureux, et même quand il pleut, j'aime la pluie, j'aime la terre, les fleurs, la vie et le ciel bleu, et puis les femmes, les femmes, les femmes, qu'ont les yeux bleus. Venez avec moi, je cours dans les bois, je brûle des branches pourries. Au cœur de l'hiver, il y a du bois vert. Au printemps, la neige est fleurie. Et la marmotte dit à l'écureuil, depuis 3 mois, je n'ai pas fermé l'œil. Marmotte, vous mentez, voici venir l'été. Les oiseaux vont chanter dans la nature, et mon nos pères, nos mères, la vie et le bon Dieu, et puis les doux, hop, oh oui, les doux, hop, surtout les doux, hop, qu'ont les yeux bleus.
Et on va jouer à expert contre faussaire. D'ailleurs, vous allez jouer, vous aussi, à ce jeu avec nous. Vous écoutez les papous, en fait?
Oui.
Bon, donc vous connaissez le jeu. Mais pour les 3-4 personnes qui ne connaissent pas, je vais expliquer ce qui s'est passé. Voilà, expert contre faussaire. Donc, il y a à ce jeu, aujourd'hui, 2 experts, Patrice Minet, Hervé Le Tellier, et 3 faussaires, Eva Almassy, Dominique Muller et Patrice Delbourg. En quoi le jeu consiste-t-il? Eh bien, il y a un homme qui est un peu le maître du jeu ici, c'est Lucas Fournier. Lucas Fournier, je lui ai demandé de choisir une certaine œuvre d'un auteur très connu, un auteur qui a du style, un style que, à défaut de connaître toutes ses œuvres par cœur, eh bien, on peut imiter si on est un bon lecteur. Et je crois que nos 3 pasticheurs ont beaucoup lu, peut-être pas tout. Mais ils sont capables d'imiter ce style. Et c'est ce qu'ils ont fait. On s'est réunis mercredi matin chez Dominique, vous allez tout savoir. Lucas était là, il leur a proposé une certaine œuvre. Et nos 3 pasticheurs, immédiatement, se sont mis à écrire le début et la fin de l'œuvre en question. Ou du moins ce qu'ils pensaient être le début et la fin. J'ai ramassé les copies manuscrites, je les ai tapées. Et maintenant, on va tout expliquer à Patrice Minet et Hervé Le Tellier, qui eux ne sont au courant de rien, tout comme vous d'ailleurs. Quelle œuvre avez-vous choisi, Lucas?
Alors, comme nous venions à Bordeaux, j'ai choisi un conte de Noël. C'est donc un conte de Noël qui est écrit par un spécialiste du genre, François Mauriac. Merci. Donc, le titre de l'ouvrage que j'ai choisi, c'est « Contes de Noël » de François Mauriac, publié en 1938. Oui. Le livre fait 12 pages, enfin, le conte de Noël. Donc, je vais vous raconter très brièvement le conte.
Oui, succinctement, un petit peu l'histoire.
Alors, il était une fois 2 petits garçons de 7 ans qui se posaient la question du mystère de Noël. Ils sont pensionnaires. Il y a le narrateur qui s'appelle Yves Frontenac et son ami s'appelle Jean de Blaye. Il a de très longues boucles d'or. Et ce sont les seuls du pensionnat à croire, non pas au Père Noël, mais à croire que c'est le petit Jésus qui apporte les cadeaux de Noël. Parce que leur maman leur a dit. Et qu'une maman ne ment jamais. Ils se sont promis, juste avant de partir en vacances de Noël, tous les deux, pendant la nuit de Noël, de bien regarder, de savoir ce qui allait se passer, et puis d'échanger leurs expériences. Donc, le petit Frontenac, qui est le narrateur, lui, cette nuit de Noël, il voit sa maman. Elle vient, elle revient, mais il ne veut pas renier ce qu'a dit sa mère, donc il considère que Jésus était en elle, et donc d'une certaine façon, c'est Jésus qui a remis les cadeaux. et il veut faire partager son point de vue à son ami Jean de Blaye. Mais quand il revient à l'école, le charmant Jean est métamorphosé, il a rasé ses boucles blondes, il ne croit plus au petit Jésus, et à propos de sa maman, il dit « elle ne me blaguera plus ».
Vous êtes écouté dans un silence religieux.
On est presque à la fin. Hein. On est presque à la fin.
Et alors,
c'est 15 ans après, une nuit, dans une boîte parisienne assez sordide, Frontenac, devenu étudiant et poète, rencontre par hasard quelqu'un qui croit être son ancien ami, Jean de Blaye. Mais non, c'est son frère, le frère de ce garçon. Et là, il apprend que le petit Jean de Blaye, après avoir découvert que sa mère était capable de mentir, avait sombré dans une vie dissolue de mauvais garçon pour finir par mourir à Saïgon. Cette terrible révélation laisse notre narrateur songeur et il sent une vocation germer en lui. Voilà l'histoire.
Et
c'est,
donc,
c'est un joli conte de Noël. Hein.
Voilà. Alors, ah bon, on a envie de le lire. Hein.
Oui. Et vous allez
d'autant... On va l'acheter tout de suite.
Oui. Et alors vous allez avoir d'autant plus envie de le lire que les deux premières phrases et les deux dernières phrases...
Voilà.
Sont magnifiques.
Ils n'ont pas tout réécrit, bien sûr, simplement le début et la fin.
Vous connaissez tous, évidemment, ce conte de mémoire, mais je vous rappelle simplement le début. Quatre lignes. Donc, les enfants jouent dans une cour de récréation plantée d'un arbre, dont le nom est donné. Mm-hmm. Un sapin, un jacaranda, voilà.
Donc, les faussaires ont forcément mis un nom d'arbre
voilà.
Dans leur texte.
Et sous la surveillance d'un... Alors, on ne sait pas si c'est... un instituteur, un agrégé, enfin, de quelqu'un dont le nom aussi nous est donné. Donc c'est un début classique, je dirais presque flaubertien, mais je ne veux pas en dire plus.
Non, il ne faut pas trop dévoiler. Et la fin?
Alors la fin, évidemment, on est quand même dans quelque chose de plus lourd. C'est la nuit même où le narrateur vient d'apprendre le sort tragique de son ami, donc décédé à Saïgon. Il s'installe pour travailler et dans une phrase prophétique, il annonce la naissance d'une vocation. La fin est un tout petit peu grandiloquente.
Très bien, on a l'histoire en tête. Le
en gros, c'est,
de
du, c'est du très bon Mauriac.
Hein. Voilà. Quelque chose à dire, Patrice Minet, Hervé Le Tellier?
Je leur souhaite bonne chance.
Parce que vous êtes très, très féru en Mauriac, c'est ça?
Je pense qu'on va avoir trois marronniers dans la cour, déjà. C'est l'imagination de nos camarades.
On va voir. Donc, les textes, je les ai... Je les mélange, je les distribue au hasard, donc il y aura quatre lecteurs, les trois pasticheurs, Eval Massy, Dominique Muller, Patrice Delbourg. Et moi, pour la quatrième lecture, prenez un texte, et c'est le moment où Hervé Le Tellier vous raconte une blague caramba ou autre, pendant que nous prenons connaissance du texte que nous allons lire, vous voulez bien ? Hervé ?
Je n'ai pas de blague caramba, je n'aurai jamais le temps de...
C'est un type qui rentre dans un bistrot, il dit « Salut, c'est moi !» Ben, c'était pas lui.
Effectivement,
ah ouais,
elle est très bien.
Voilà.
Elle est très bien.
Une autre. Voilà. C'est un Belge, un Italien et un Suédois qui rentrent dans un café et le barman dit « C'est pour une blague ?» Vous en voulez d'autres?
Ça va aller, ça va aller. Merci beaucoup. Alors, je vous demanderai votre avis dans la salle, bien sûr. Tout à l'heure, hein. Ce sera aussi à vous d'identifier le vrai Mauriac et de rendre à chacun ce qu'il a écrit. Vous voulez bien jouer?
Oui. Facile, hein, c'est facile.
Bah, eux aussi, nos experts, ils tentent. Hein.
Oui, il y a le mot chafouin.
Ils trouvent pas. Hein.
S'il y a le mot chafouin qui apparaît, qui donne un truc, c'est Delbourg. Donc, il y a des choses comme ça qui facilitent énormément le travail de l'expert, mais on l'a pas tout le temps, le mot chafouin. Bah. Mais quand même, une fois sur deux.
C'est-à-dire, comme Hervé Le Tellier vient avec sa famille et qu'il est assez désastreux à ce jeu, je mets toujours un mot pour
facile
l'aider un
pour
petit
lire.
Peu. Voilà.
Bon, une première lecture. Eval Massy, vous avez un texte sous les yeux. Vous vous cachez un petit peu de l'expert Minet. Hein, oui,
j'ai mis
ça.
Un muse.
Très, très bien. On vous écoute.
Le début. Un maigre platane qui cherchait l'air dominait les hauts murs de la cour où nous venions d'être lâchés. Mais ce jour-là, au coup de sifflet de Monsieur Garouste, nous ne poussâmes pas les piaillements habituels de nos récréations.
C'est le début. Et on a un platane. Voilà. On peut noter, on peut identifier les textes.
Ça oriente fortement vers Mauriac.
La fin.
Oui.
Malgré mon désir de sommeil, je m'assis à ma table en habit, la boutonnière encore fleurie. Je pris une plume et une page blanche, tant j'avais peur d'oublier les idées qui m'étaient venues. Un romancier venait de naître et ouvrait les yeux sur le triste monde.
Voilà, c'est un texte costaud, hein? Assez beau, non?
Oui.
Hein? Ça vous donne envie de lire le livre? Ils sont gentils, hein?
Il y a que 12 pages, hein, ceci dit. Hein, ça,
alors, première impression, Hervé Le Tellier.
C'est un peu cliché quand même. On voit bien le début flaubertien, le nous. Alors, ils ne sont pas à l'étude, cette fois-ci. Le proviseur n'entre pas.
Non.
Mais, les règles sont respectées, hein, c'est-à-dire toutes les consignes données par Lucas se sont présentes. Hein. Le triste monde me semble vraiment assez pauvre. Bon, c'est Mauriac, mais... Non, ça me paraît un peu faible. Bon, mes camarades ayant eu peu de temps pour le rédiger, on peut leur tolérer le triste monde.
Une demi-heure, ils ont eu une demi-heure.
Une demi-heure, quand même. Alors, j'ai rien dit, alors.
Patrice Minet, votre avis?
Le platane, bon. C'est vrai que moi aussi, j'aurais choisi un platane.
Oui.
Mais c'est pas moi qui ai écrit ce début.
Non.
Et le triste monde, effectivement, ce sont pas les derniers mots que j'aurais choisis.
Oui, non, mais enfin, vous n'êtes pas faussaire, vous êtes expert. Alors, qui les a choisis, ces mots?
Voilà.
Parce que, bon, je me mets quand même à la place de
François Mauriac,
ouais.
Qui a quand même écrit 15 pages.
12, ah bravo, oh, quelle mémoire.
C'est ce que je viens de dire.
Les experts qui boivent, c'est moche.
Je suis pas sûr que ça soit de Mauriac.
D'accord.
Je ne le souhaite pas.
Bon, on passe à une deuxième lecture. Le texte que vous avez sous les yeux, Dominique Muller.
Tout autour du vieux tilleul dépenaillé, les gamins jouaient à l'épervier dans la cour bitumeuse de l'école communale Saint-Aignan, sous le regard faussement sévère de Monsieur Martinet, pion de père en fils depuis les débuts de la Troisième République.
Cadeau. Oh, merci. Merci. Voilà. Merci à Patrice.
Ce n'est pas fini, tout de même.
C'est pas grave. Je voudrais solennellement remercier Patrice de ce monsieur Martinet, du tilleul et des gamins qui jouaient dans la cour. Non, c'est gentil.
La fin et la Troisième République, non ?
Et la Troisième République, bien entendu. Bien entendu.
La fin, Dominique.
Je pris place près du petit guéridon en fonte de la véranda. J'extirpais d'un tiroir mon petit carnet oblong à spirale.
Oblong.
Mais ça n'a rien de drôle. Et je sentis confusément que les mots qui viendraient désormais sous ma plume ne verraient le jour que pour faire le bien alentour, pour apporter une aide à mes contemporains.
Mais vous savez... Oui, Dominique.
Est-ce que je peux vous faire remarquer à notre public que pour nous autres faussaires, ce jeu est profondément humiliant. Quand tout le monde éclate de rire, c'est très, très, très humiliant.
Mais on éclate de rire parce que François Mauriac a écrit quelques ouvrages rares, drôle, tout à fait rigolos.
Drôle. Les comédies de Mauriac sont peu jouées, mais...
Mais elles devraient l'être.
Mais elles devraient, oui.
Point de vue, à qui attribuez-vous ce texte, Hervé Le Tellier, avec des arguments littéraires, si possible?
Je n'en ai qu'un, oblong.
Et alors, oblong?
Oblong. C'est donc une gentillesse que nous donne à chaque fois, finalement, notre camarade Patrice.
Donc vous optez dès le premier tour.
Ah oui, non, je reviendrai peut-être dessus, parce que bon, on ne sait jamais s'il y avait chaque point. Ce qui m'étonnerait énormément dans un texte ultérieur, là, ça me troublerait considérablement, mais pour l'instant, je n'ai qu'oblong. Et je reste donc là-dessus. Non, j'en suis...
Alors, petite option Patrice Delbourg pour Hervé Le Tellier. Et pour vous, Minet?
Oui.
Mais j'aime encore.
J'aime beaucoup cette image des mots qui voient le jour sous la plume. Je trouve ça très poétique.
Mais c'est vrai.
Oui.
La personne qui a écrit ce début et cette fin a décidé d'imiter le style de Patrice Delbourg... et non pas celui de François Mauriac. Je trouve que c'est quelqu'un qui connaît bien Delbourg.
Ouais.
Mieux que Mauriac.
Bon, nous avons deux options très proches, toutes les deux, pour Patrice Delbourg.
En plus, je tiens à dire que la consigne de départ n'est pas respectée. Le début flaubertien, où on pouvait quand même attendre la présence d'un nous, on n'imagine pas un texte avec un narrateur qui dirait « les gamins ». Donc ça élimine quand même Mauriac. Oui, forcément, il y a un nous au début.
C'est-à-dire, faut pas oublier non plus que, par exemple, Flaubert hurlait ses phrases. Vous vous voyez en train de hurler « Tilleul dépenaillé !» Troisième République.
Oh ben. Ah ben.
Alors j'avais également oublié Dépenaillé, oui. Qui ne diminue pas pour autant mon impression.
Oblong, spirale.
Dépenaillé, c'est très bien.
Ouais. Bon, n'en jetez plus.
Non, c'est bon.
Troisième lecture, Patrice Delbourg.
À l'approche des vacances de Noël, Monsieur Dujardin nous observa nous perdre dans de grandes discussions qui n'étaient pas de notre âge. Sous les branches dénudées du vieux sycomore de la cour. Il n'avait pas encore neigé cette année-là.
Oui, la faim.
Je pris mon atlas de ces bouts du monde et de ces recommencements de monde et fis le serment de me jeter dans de grands voyages qui seront des pèlerinages et des explorations, de Nazareth à Saïgon, toute une existence.
Ah, là, on rigole plus, hein. Ah, attention, c'est du lourd.
Non, on rigole plus, on est accablé.
Eh ben, bien sûr.
Mais encore, Patrice.
Alors, moi, j'aime bien le nom du jardin. Je trouve que c'est un très joli nom.
Oui, pour le maître d'école. Mmh.
Alors, le vieux sycomore, c'est une découverte... qui fait frémir, parce que c'est rare qu'on parle des jeunes sycomores. Nous avons aussi Atlas, qui montre que la personne qui a écrit ça a du vocabulaire, ainsi que Nazareth, c'est une personne qui a voyagé.
Ouais.
Voilà.
Ça vous mène vers quelqu'un comme ça, ça vous éloigne de quelqu'un?
De Delbourg.
Mais nul, il n'a pas rien fait.
D'accord, Hervé Le Tellier.
De Mauriac. Mais non, c'est la présence de pèlerinage et Nazareth, c'est quand même beaucoup dans un petit conte de Noël à la fin, quoi. Ça fait, c'est une sorte d'imaginaire mauriacien, mauriacois,
mauriacien.
Donc je pense que quand même c'est quelqu'un qui a une idée de ce qu'est Mauriac, mais qui ne l'a pas lu. Donc je serais tenté d'aller vers Eva, qui à mon avis n'a jamais eu l'occasion d'ouvrir Mauriac, interdit en Hongrie, car trop subversif, et qu'elle découvre aujourd'hui. Et donc Dujardin me semble être un... Dujardin sycomore, ça fait partie des premières choses qu'on apprend lorsqu'on apprend le français. Hein, dans les manuels hongrois. Donc, donc j'irai assez volontiers... Le mot atlas se dit de la même façon en hongrois, en plus c'est un deuxième indice. Donc j'irai assez volontiers...
Vers Eva. Hypothèse Eva Almassy pour Hervé Le Tellier, pas encore d'hypothèse très prononcée pour Patrice Minet.
Ah non, je ne prononcerai pas. Non.
D'accord, on vous aura un deuxième tour, mais d'abord le dernier texte.
Oui, quand même.
Dans la cour froide et grise, Monsieur Soubéran serrait son cache-col de ses deux poings, appuyé à l'érable qui semblait retenir sa chute. Bientôt ce serait Noël. Le soulagement des vacances, loin des cris d'enfants du pensionnat. Blaye, vous n'oublierez pas de présenter mes hommages à madame votre mère, souffla-t-il à Jean comme un vilain secret.
Ah. Alors là.
Oui. Et vous voulez la fin?
Oui, quand oui. Même.
Tant pis.
Il était mort. Et avec lui notre enfance, ce temps où l'on croit aux petits mensonges d'une mère. Il m'a paru soudain que je n'avais jamais été plus vivant que cette nuit-là. Assis à ma table de bois blanc, j'abandonnais mes livres, regardais le ciel. J'attendais qu'il fût l'heure où ma mère se lèverait. Je lui annoncerais alors que j'entrais au petit séminaire. Oui, j'allais vivre. Moi, en lisant, j'étais extrêmement émue, je dois dire.
C'est dommage
ça très beau.
C'est dommage parce que la fin gâche tout.
Oh, comme vous y allez, pourquoi? J'allais vivre.
Parce que ça fait rire.
Ouais. Non, ça fait rire que vous.
Non, moi aussi.
Ah bon?
Un petit peu quand même.
Oui.
Non, qu'est-ce que vous pensez? Un peu exagéré. Mais c'est pas mal, hein. C'est une,
ah oui.
Ça tient la route. Donc c'est quand même quelqu'un qui a une. Mais ça me paraît caricatural. Finir un conte de Noël par géant trop petit séminaire me semble également une sorte de. Bon, ça fait Nazareth avant, le petit séminaire maintenant.
Enfin, Lucas Fournier a parlé d'une vraie vocation, je vous signale.
Oh, c'est une vraie vocation, c'est certain. Mais,
oui.
Oui, c'est quelqu'un qui a lu Des souris des hommes et vipère au point en croyant que c'était de Mauriac. Quoi.
Des souris et des points.
Et vous avez un nom comme ça, une hypothèse de premier tour?
Non, certainement pas.
Vous non plus, Hervé?
Non. En fait, j'hésite entre Dominique et Mauriac, ce qui m'arrive souvent. Hein.
Oui. Bon, vous allez avoir un deuxième tour, mais c'est le dernier.
Ouais.
Et c'est là que je vous demanderai de voter, à chaque tour, à chaque lecture, puis après on verra. Hein. Puis si on perd à ce jeu, en général, les experts perdent toujours. Enfin, il y a des exceptions, hein. Mais je ne crois pas avec ces deux-là. Allez, on recommence. Lecture et Valmassi.
Début. Un maigre platane qui cherche l'air dominait les hauts murs de la cour où nous venions d'être lâchés. Mais ce jour-là, au coup de sifflet de Monsieur Garouste, nous ne poussâmes pas les piaillements habituels de nos récréations.
Oui.
Fin. Malgré mon désir de sommeil, je m'assis à ma table en habit, la boutonnière encore fleurie, je pris une plume et une page blanche, tant j'avais peur d'oublier les idées qui m'étaient venues. Un romancier venait de naître et ouvrait les yeux sur le triste monde.
Donc on a le platane et Monsieur Garouste. Ça c'est notre repère, on va s'y accrocher. Et maintenant, Hervé Letellier, Patrice Mini, il faut dire qui a
écrit ce
texte.
Hein, c'est
terrible, oui. Et pas de retour en arrière possible.
Et oui. Tu as une idée?
Oui, j'ai une idée.
Oui. Vas-y.
J'ai une idée. C'est-à-dire que mon idée, c'est qui cela peut-il bien être?
Ouais.
Alors, voilà, il y a la plume et la page blanche.
Oui.
Et terminé par Triste Monde, je sens bien qu'il y a, un désir aussi de me faire rire.
Et alors, qui?
Dominique.
Dominique a fait ça. Ah! Oui, bah pourquoi pas. Hein.
Oui, pourquoi pas.
Hein. Pourquoi pas, je le note.
C'est forcément volontaire. C'est
Hervé Letellier.
On ne peut pas imaginer trois clichés successifs sous la plume de...
Qui ne serait pas de moi.
De Mauriac. En revanche, sous la plume d'un expert,
le cliché
volontaire. Non, le cliché volontaire. Tu sais comment on est généreux.
C'est assez savant, en fait.
Oui, c'est très malin, en fait. Hein, la page blanche, tout ça. Non, ça me paraît pas... Moi, je dirais aussi Dominique. Voilà, je reste sur Dominique.
Ah, vous savez que si vous nous noyez ensemble. Enfin, vous pourrez toujours vous tenir par la main, mais...
Je vais bien être noyé avec Hervé,
oui,
moi.
Voilà.
Dites-moi dans la salle, vous êtes d'accord avec eux, ne vous laissez pas influencer.
Non, qui pense que c'est Mauriac?
C'est
d'abord.
Du Dominique Muller?
Non.
C'est du Patrice Delbourg?
Non.
C'est du Éval Massy?
Non.
C'est du François Mauriac?
Non.
Non, mais alors.
C'est de qui? Il y a juste les oui qui disent.
Oui.
Mauriac, Triste Monde, Mauriac.
Il y en a pas mal.
Ça sera retenu contre vous.
Hein. Bon, donc la salle, disons, est majoritairement pour Mauriac, on pourrait dire ça?
Non.
Mais elle est majoritairement pour qui, alors?
Dominique Muller.
Ah oui, Dominique Muller, quand même.
Bon, la salle est très partagée, on va dire. Hein.
Voilà.
Non, la salle est d'accord avec les experts.
Salle partagée, ce qui est une erreur, à mon avis. Il ne faut jamais suivre les experts. Parce que bon. Mais bon, bref. Deuxième lecture, Dominique Muller.
Tout autour du vieux tilleul dépenaillé, les gamins jouaient à l'épervier dans la cour bitumeuse de l'école communale Saint-Aignan.
Oui.
Sous le regard faussement sévère de Monsieur Martinet, pion de père en fils depuis les débuts de la Troisième République.
Ah mais, putain, alors soit c'est un remarquable pastiche de Delbourg, c'est vrai, hein. Ça serait d'une perversité, d'une totale. Non, je crois que c'est vraiment Patrice Delbourg. J'avais oublié le bitumeuse. Alors là...
Ça accrédite encore.
C'est-à-dire que oui, c'est un point de plus.
D'accord. Alors donc, nous aurions un Patrice Delbourg pour Hervé Letellier.
Ah, pardon, même pas le droit de lire la fin.
Là, mon Dieu. Oui, la fin.
Oblon.
je pris place près du petit guéridon en fonte de la véranda. J'extirpais d'un tiroir mon petit carnet houblon à spirale et je sentis confusément que les mots qui viendraient désormais sous ma plume ne verraient le jour que pour faire le bien alentour, pour apporter une aide à mes contemporains.
Bien, donc nous avons un Patrice Delbourg pour Hervé Letellier et pour Patrice Minet, c'est l'option que vous aviez prise tout à l'heure.
Oui, l'oblon à spirale ne me paraît venir que de Patrice Delbourg.
De Patrice Delbourg. Est-ce que la salle est pour Delbourg?
Oui.
Oula. Oh, mais il y a une connaissance de Delbourg. Hein, vous savez. C'est quelqu'un, il a de la personnalité. Ça, c'est formidable avec lui. Quelqu'un est pour quelqu'un d'autre?
Oh non, mais non.
Pour Mauriac? Ah, personne pour Mauriac?
Non, mais non. Non. Oh. En fait, nous confions sur celui-là, on est presque sûr.
Là, troisième lecture, Patrice Delbourg.
À l'approche des vacances de Noël, Monsieur Dujardin nous observa nous perdre dans de grandes discussions qui n'étaient pas de notre âge, sous les branches dénudées du vieux sycomore de la cour. Il n'avait pas encore neigé cette année-là.
Oui.
Je pris mon atlas de ces bouts du monde et de ces recommencements de monde et fis le serment de me jeter dans de grands voyages qui seront des pèlerinages et des explorations. De Nazareth à Saïgon, toute une existence.
Bon, déjà, il n'y a pas Ho Chi Minh Ville, ce qui prouve que la personne connaît quand même la géographie de l'époque. Je vais changer d'avis.
Oui, vous aviez vaguement parlé d'Eva
tout
à l'heure.
Et
oui.
je vais aller vers Mauriac, parce que je pense que le séminaire et l'écriture sont des fausses pistes inventées par les experts. Et Mauriac pourrait quand même écrire ceci. J'y crois assez. Je vais aller vers Mauriac. Voilà.
Donc,
et puis tant pis.
Changement de situation.
J'ai fait 4 erreurs, c'est pas grave.
Un François Mauriac pour cette lecture. Patrice Minet.
J'aurais peut-être dit Mauriac. Je suis un petit peu gêné par le fait de se jeter dans les voyages. Et je vais dire Eva.
Parce que Eva se jette dans les voyages, mais François Mauriac, non. Il part, quoi, simplement.
Ben, je pense, oui.
Ah ouais.
Voilà, je trouve que ça ressemble pas du tout à Mauriac.
Oui, mais pour autant, est-ce que ça ressemble à Eva Almassy?
Ça ressemble peut-être à Eva Almassy essayant d'écrire du Mauriac. Oui.
Bien, nous avons donc un Mauriac pour Hervé Letellier, un Eva Almassy pour Patrice Minet. Est-ce que vous votez pour Mauriac dans la salle?
Non.
Non. Pour Eva Almassy?
Vous avez sans doute raison.
Pour Dominique Muller? Pour Patrice Delbourg?
Non.
Qui ne vote jamais? Bon, on passe à la dernière lecture. Dans la cour froide et grise, Monsieur Soubéran serrait son cache-col de ses deux poings, appuyé à l'érable qui semblait retenir sa chute. Bientôt, ce serait Noël. Le soulagement des vacances, loin des cris d'enfants du pensionnat. Blaye, vous n'oublierez pas de présenter mes hommages à madame votre mère, souffla-t-il à Jean comme un vilain secret.
Alors c'est bizarre parce que tu le cries et après tu dis souffla-t-il à Jean. Alors... Soit...
Oui, parce que je...
Soit il y a un problème narratif.
Oui, mais à mon avis, le problème n'est pas mon interprétation de ce texte. Parce que je trouvais que dans la phrase, dans le petit mot, comme un vilain secret, il y avait de la violence qui m'incitait à crier phrase.
En fait, il manque des mots. Il souffla dans son porte-voix.
Voilà. Si vous voulez, je peux dire... Vous voulez que je souffle?
Non, c'est bon.
La fin. Il était mort, et avec lui notre enfance, ce temps où l'on croit aux petits mensonges d'une mère. Il m'a paru soudain que je n'avais jamais été plus vivant que cette nuit-là. Assis à ma table de bois blanc, j'abandonnais mes livres, regardais le ciel. J'attendais qu'il fût l'heure où ma mère se lèverait. Je lui annoncerai alors que j'entrais au petit séminaire. Oui, j'allais vivre. Il y a toujours un petit succès comique avec ce « oui, j'allais vivre ».
C'est peut-être Mauriac.
C'est lié au petit... Alors, c'est qui?
C'est peut-être Mauriac. Hein.
C'est qui, Hervé Letellier?
Ah là, ça pourrait être Mauriac, ce genre de...
Non, mais vous l'avez déjà attribué, vous.
Oui, mais je pourrais changer d'avis. Je vais rester
sûr. Non, je ne changerai pas d'avis.
De toute façon, bon, il n'y a plus de questions à se poser, c'est le quatrième. Donc, pour moi, c'est forcément Eva.
Mais je pense que je me trompe. Là. Bon, c'est pas grave. Eva.
Eva. Oui. Oui, pas convaincue, l'expert.
Non,
hein.
Pas convaincue. Mais c'est tellement ridicule, le séminaire.
Pas touche. Et pour vous, Patrice Minet?
Je pense que c'est François. Je pense que c'est François Mauriac. Je pense qu'il n'était pas en grande forme. Il était mort et jamais plus vivant.
Non, oui, vivre, pas jamais plus vivant. Vivre,
oui,
vivre.
Voilà, il est mort et plus vivant. Et ensuite, maman. Et sa maman, c'est très Mauriac.
Ah bon?
Oui, papa beaucoup moins. Hein. C'est vrai. C'est vrai.
Bon, un Éval Massy pour Hervé Le Tellier, pas convaincu du tout. Un François Mauriac pour Patrice Minet. La salle est Mauriac?
Oui.
La salle est Dominique Muller?
Oui.
Quelques-uns. La salle est Éval Massy?
Oui.
Oui, il y a toujours quelqu'un sur la gauche qui dit oui. Je sais pas si c'est le même à chaque fois.
Il y en a un qui fait oui tout le temps. D'enthousiasme.
Et la salle est Delbourg, non? Non. Bon, alors, si on récapitule, hein, la première lecture qui était faite par Éval Massy et qui parlait d'un platane et de Monsieur Garouste a été attribuée en chœur par nos deux experts à Dominique Muller. La salle était partagée, il y avait des Mauriacs. Éval Massy, vous avez lu ce texte, de qui est-il?
Il est de Mauriac.
Ah, bravo! Qu'est-ce qu'on dit aux experts?
Oui, ça va, oui, bon. Commence maintenant une longue série d'échecs.
Ah, oui. C'est le triste monde, hein.
Ça fait monde, donc 0-0.
Ouais.
Vous nous relisez juste le début, Eva,
ouais,
pour qu'on se remette Mauriac. Oui.
Un maigre platane qui cherchait l'air dominait les hauts murs de la cour où nous venions d'être lâchés. Mais ce jour-là, au coup de sifflet de Monsieur Garouste, nous ne poussâmes pas les piaillements habituels de nos récréations.
C'est du joli Mauriac, non?
J'aurais pu l'écrire.
Mais vous auriez pu l'écrire, Dominique. Ça vous fait quelque chose d'avoir été prise par Mauriac, quelque part? C'est touchant. Deuxième lecture, Dominique Muller, vous avez parlé d'un tilleul et de Monsieur Martinet. Il y avait l'adjectif oblong, il y avait bitumeuse. Vous avez attribué en cœur ce texte à Patrice Delbourg. La salle était majoritairement pour Patrice Delbourg. De qui est ce texte?
La tâche était difficile. J'ai eu beau essayer de mettre tout mon... C'était Patrice Delbourg.
Oui, Patrice.
Voilà des saisons que je me dévoue pour que nos experts ne sortent pas ridicules de ce jeu. Mais rassurez-vous, messieurs, dames, ils m'offriront mon repas de dîner.
Donc ça fait un point chacun. Vous voulez bien nous relire votre début, qui était, ma foi, fort joli.
Tout autour du vieux tilleul dépenaillé, les gamins jouaient à l'épervier dans la cour bitumeuse de l'école communale Saint-Aignan. Sous le regard faussement sévère de Monsieur Martinet, pion de père en fils depuis les débuts de la Troisième République.
Voilà, c'est magnifique, il a du style. Alors, le troisième texte est lu par Patrice Delbourg. Il était question d'un sycomore et de Monsieur Dujardin. Ce texte a été pris pour du Mauriac par Hervé Le Tellier. On sait maintenant que ce n'est plus possible, Hervé. Et pour du Éval Massy par Patrice Minet. De qui est-il, Patrice Delbourg, vous qui l'avez lu?
Il est d'Éval Massy.
Ah, mais il y a beaucoup de gens dans la salle qui ont dit Eva. Et ça fait un deuxième point pour Patrice Minet. Je ne sais pas si vous l'avez fait exprès, Minet, mais...
Mais pas du tout.
En tout cas, Hervé Le Tellier était bien puni. Parce que d'abord, il a dit que mon vocabulaire était de niveau de Atlas et du Jardin.
Elle est très, très fâchée.
Je suis fâchée. Parce que il faut lire un peu du Éval Massy pour vous rendre compte de
Tenez,
mon vocabulaire.
Tenez, Éval Massy, lisez-nous votre début.
Mais il ne faut pas être fâchée.
Par contre, alors, je ne connais pas Mauriac. Ça, c'est vrai. À l'approche des vacances de Noël, Monsieur Dujardin nous observa, nos pères, dans de grandes discussions qui n'étaient pas de notre âge, sous les branches dénudées du vieux sycomore de la cour. Il n'avait pas encore neigé cette année-là.
C'est très joli, hein? Il y a toute la poésie d'Eva. La neige.
Le lac Balaton.
Le quatrième texte que je vous ai lu, où il y avait Monsieur Soubéran, où il y avait cet érable, eh bien,
oui.
Vous l'avez attribué à Hervé Le Tellier, à Yval Massy, c'est faux.
Mais
Patrice
oui.
Minet, à François Mauriac, c'est faux. C'est du Dominique Muller qui a donc été prise deux fois
sur deux
pour François Mauriac. Bravo Dominique. Lisez-nous votre si joli début.
Dans la cour froide et
ou
grise.
Ou la fin plutôt, tenez, pour voir si vous
oui,
faites allez, rire
je
vous aussi.
Je peux mélanger les deux si vous voulez aussi.
Non, la fin.
Il était mort, et avec lui notre enfance, ce temps où l'on croit aux petits mensonges d'une mère. Il m'a paru soudain que je n'avais jamais été plus vivant que cette nuit-là. Assis à ma table de bois blanc, j'abandonnais mes livres, regardais le ciel. J'attendais qu'il fût l'heure où ma mère se lèverait. Je lui annoncerais alors que j'entrais au petit séminaire. Oui, j'allais vivre.
Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que Patrice Minet a 2 points, 2 sur 4, c'est oui, la moyenne.
C'est quasiment un sans faute.
Hervé Le Tellier est très fort sur Patrice Delbourg.
Oui. Ouais.
Bon, c'est son sujet, il va sûrement faire une thèse sur
c'est
Patrice. Donc vous avez 1 point. Et la salle, ben, bravo, parce qu'il y en a quand même pas mal qui avaient reconnu François Mauriac. Et ma foi, il y en a qui ont reconnu Eva. Dominique, pas beaucoup, hein. Faudrait lire davantage Dominique Muller.
Oui, c'est ce que j'ai dit.
Et Mauriac aussi.
Bravo à tous pour ce jeu. Les papous passent la grègue, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Tressart avec Anne de Pelchin, Pierre Mine, Patrice Klein, Gilles Manet, chargée de production Roland Dandalex. Un numéro des papous à télécharger sur franceculture.fr pendant 1 an, c'est le podcast. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. À réécouter aussi directement à la page du 19 avril, page sur laquelle vous pouvez poster tout ce qui vous passe par la tête et nous concerne. Remarques, questions, suggestions. On se retrouve dimanche prochain pour la deuxième partie des Papous passent la grègue avec le retour des dissertations, une pub Lacan, une histoire de CV modianesque et le roman Pierre le jargonneux, tout un programme. Pour l'heure, il est temps de retrouver Antoine Perrault et Tire ta langue. Passez un très bel après-midi à l'écoute de France Culture.